France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le jeu des 1000 euros est à Fontaine-le-Comte, près de Poitiers, et c'est donc le département de la Vienne qui est à l'honneur cette semaine dans les carnets. Au programme aujourd'hui, de la musique et des tamis. Non, le tamis n'est pas un instrument de musique, c'est un objet utilisé pour tamiser, pour passer au crible de la terre ou des graines par exemple. Je passe un coup de fil tout à l'heure à un artisan de Châtellerault qui sauvegarde un précieux savoir-faire, la fabrication artisanale des tamis. Mais d'abord, une école de musique qui vient de naître en zone rurale dans un contexte national pas évident. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Après les déserts médicaux, verra-t-on bientôt des déserts musicaux? Les écoles de musique, comme nombre d'associations partout en France, voient leurs subventions publiques fondre et beaucoup sont menacés de fermeture, notamment en zone rurale. C'est dans ce contexte que vient d'ouvrir dans la Vienne une école de musique. Bonjour Claire Poilion.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes musicienne, joueuse d'alto et cofondatrice d'une école de musique à Availle-Limousine, commune de 1500 habitants, tout proche de la Charente. Cette école s'appelle l'AMAL à musique, AMAL pour Association Musicale d'Availle-Limousine. Alors votre école a ouvert à la rentrée de septembre 2025. Vous proposez aussi une saison de spectacle vivant, vous accueillez des artistes en résidence. Combien d'élèves pour l'instant chez vous?
Actuellement 25 élèves de tous les âges à peu près, pour 10 instruments qui sont proposés par 5 professeurs. Il y a du violon, de l'alto, de la flûte à bec, de la flûte traversière, ça c'est souvent très demandé, du chant, du whistle. Le whistle, c'est la flûte irlandaise, du cornet à bouquin. Alors là, j'invite tous les auditeurs à taper sur un moteur de recherche. Qu'est-ce que c'est que le cornet à bouquin? C'est magnifique. Très beau son, c'est l'ancêtre de la trompette. Du piano, évidemment, et toutes les guitares, guitare acoustique, folk, classique, électrique, basse.
25 élèves, c'est trop peu ou ça vous convient?
C'est un très bon début. Et puis ça va se savoir, le bouche à oreille fonctionne bien et ça va venir.
Le contexte difficile que j'évoquais à l'instant est-il une réalité pour vous?
Certainement. Certainement, après les initiatives n'attendent pas un contexte particulier. C'est aussi des histoires de rencontres et de synergies qui font que quelque chose se met en place.
La Confédération musicale de France, la CMF, qui regroupe plus d'un millier d'écoles de musique en France, alertait en septembre dernier justement en disant il y a plusieurs dizaines d'écoles de musique qui ont fermé en France en une décennie. C'est de nature à vous inquiéter, à vous décourager peut-être?
Non, pas du tout. Il y a le global, le dézoomé, si on veut, avec une grande photo. Et puis après, il y a la vie quotidienne dans des milliers de villages français, où il se passe plein de choses variées. Donc non, ça ne m'inquiète pas. Et de fait, depuis le début, en fait, ça intéresse beaucoup de gens.
Justement, quelle serait la raison d'être de la mal à musique, selon vous, Claire Poilion?
La raison d'être, il y en a plusieurs. Il y a le fait de faire vivre un village. Je pense que Availle-Limousine est assez représentatif de beaucoup de villages en France où on y dort, on peut y faire des fêtes entre voisins, mais la proposition culturelle, les activités proposées pour tous les âges n'est pas toujours extrêmement riche. Donc là, il se trouve que moi, je suis musicienne et que j'habite à Availle et qu'il y a des gens qui aiment la musique. Donc c'était un peu l'occasion aussi.
Vous êtes à peu près à mi-chemin entre Poitiers et Limoges. L'offre culturelle est insuffisante, selon vous?
Selon moi, l'offre culturelle est toujours insuffisante, où qu'on se trouve.
Faire jouer de la musique, en tout cas, dans ce village rural, ça a beaucoup de sens pour vous?
Énormément. Oui, la musique, c'est la convivialité, c'est la joie, c'est le partage. Ça aplanit toutes les différences qu'on peut imaginer, les différences d'âge, les différences de milieu social, d'opinion, de langue. Il y a beaucoup d'anglais dans le Poitou. Et donc, parfois, ça peut être une barrière pour se rencontrer. Et quand on joue de la musique, mais on s'en fout. On joue ensemble. Et ça, c'est important. Et puis, il y a toutes les qualités propres à la musique, les arts de manière générale. C'est ce qui nous rend vraiment humains. Et la musique en particulier, c'est ce qui nous rassemble, je pense.
À vous entendre, il y a un lien à faire entre la société polarisée dans laquelle on vit et la nécessité de créer des écoles de musique en France.
Oui, bien sûr, évidemment. J'enseigne depuis fort longtemps dans beaucoup de pays différents et je vois que notamment les adolescents vont pas bien. Là, sur les 5 dernières années, je trouve qu'ils vont vraiment beaucoup moins bien qu'avant. Et ils sont angoissés, ils sont nerveux, ils n'ont pas de désir. Pratiquer la musique, ça reconnecte avec soi-même, ça met en prise avec la vie. Et je pense que ça fait du bien. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein. Il y a tout un tas de chercheurs et de scientifiques qui en parlent, ces effets-là de la musique.
Ce n'est pas vous qui le dites, mais c'est vous qui le vivez au quotidien. Vous voyez ce que ça fait comme effet quand on met un instrument de musique dans les mains d'un adolescent?
Ben déjà, moi, enfin, le fait de pratiquer la musique, je pense que ça fait de moi quelqu'un de joyeux. Ouais, vraiment de joyeux, je pense que c'est le mot qui convient. Et je le vois évidemment avec mes élèves, qu'ils soient tout petits ou retraités. Enfin, c'est vraiment, il se passe quelque chose de très important quand on pratique un instrument. Ouais.
On parlait de la fonte des subventions publiques qui mettent en difficulté beaucoup d'écoles de musique associatives en France. Comment se porte votre association, La Malle à Musique?
La Malle à Musique, c'est une association bébé. Elle a été créée en février dernier. Donc, comme vous le savez sûrement, à moins d'un an de vie associative, il n'y a pas encore de subvention publique. Alors, on est soutenu par la mairie d'Avail, financièrement et logistiquement, ça c'est super. Mais là, on est dans les starting blocks pour dès février, commencer à remplir des dossiers et à demander des subventions publiques. Il faut se battre pour que les subventions publiques continuent d'exister, évidemment.
Et quels sont les autres besoins de votre association? Avez-vous besoin de bénévoles ou de dons d'instruments de musique, peut-être?
Oh, alors j'ai réfléchi, j'ai fait plein de listes dans ma tête. Amis Poitevin, ou même Charentais du nord de la Charente.
Toute la France, allons-y.
Non, mais ceux qui sont prêts. Mmh. On a besoin de bénévoles, de gens qui peuvent donner une heure par-ci, par-là, ou de gens qui peuvent donner des journées entières. Il y a du travail administratif, il y a... du travail d'installation, de rangement quand on organise un concert ou un événement. Il y a besoin, on accueille des dons d'instruments de musique parce qu'on loue des instruments aux élèves à bas tarif. Hein. On essaie que ce soit vraiment accessible à tout le monde, quelles que soient les conditions financières des gens. On a besoin aussi de meubles. On a besoin, alors amis d'ailleurs, de plus loin... La Malle à Musique est reconnue d'intérêt général depuis le mois d'octobre dernier. Donc... Vous pouvez faire des dons défiscalisables, on peut choisir où vont nos impôts, c'est quand même assez génial. Si vous payez pas d'impôts, vous pouvez faire un don aussi. Mmh. On a besoin... Ah oui, alors plus... On a besoin de locaux, et donc on a besoin de quelqu'un qui achète une maison qui date du XVIe siècle. Si quelqu'un est acquéreur, eh ben, n'hésitez pas à contacter Carnet de Campagne.
Vous avez vraiment repéré une maison oui. du XVIe siècle?
Ouais, c'est un enjeu majeur là. On a des locaux temporaires mis à disposition par la mairie, mais qui ne nous permettent pas de mettre en œuvre toutes les activités, notamment ce qui est résidence d'artistes, concerts à domicile, tout ça, c'est un peu compliqué.
Mais elle coûte combien la maison que vous avez repérée?
Alors, elle est mise en vente à 40 000 euros. Franchement, c'est pas très très cher, mais...
Il vous faut un mécène.
Plusieurs mécènes, parce qu'après, il faut la restaurer. Elle est à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Donc c'est un petit million, quoi.
Allez, on va jusqu'à 1,5 million, mais pas plus.
C'est bien d'avoir des ambitions un peu larges.
Franchement, c'est préserver du patrimoine en péril et développer une activité culturelle pour tout le monde. Je vois pas qui pourrait être contre.
La Malle à Musique, c'est donc à Avail-Limousine, dans la Vienne. Et on a bien entendu que vos besoins étaient immenses.
Et variés.
Merci beaucoup Claire Poilion.
Merci Dorothée.
À bientôt sur Inter.
Avec plaisir.
France Inter. Carnet de campagne.
C'est un outil indispensable pour les archéologues qui l'utilisent pour chercher des vestiges dans le sable ou dans la terre, également pour les céramistes ou encore pour les chocolatiers. Le tamis est un objet tout simple mais très précieux et il existe à Châtellerault un artisan qui fabrique des tamis. C'est le seul en France. Bonjour Florian Houdemont.
Bonjour.
Vous avez repris cette petite entreprise il y a 2 ans, la tamiserie qui fabrique des tamis en respectant un savoir-faire ancestral. Hein. La tamiserie est née en 1850. Peut-être faut-il d'abord, Florian, décrire cet objet pour ceux qui n'auraient pas l'image en tête. À quoi ressemble un tamis?
Alors un tamis, en fait, je pense qu'on a tous dans notre mémoire collective l'image de cet objet rond, en bois. C'est un objet qui a traversé les époques. Et qui, pour ceux qui sont fabriqués à la tamiserie, sont en bois. pour la structure et en toile inox pour la partie qui va cribler en fait, qui va faire du tri de différentes matières.
Vous fabriquez environ 3000 tamis par an dans votre atelier. Tout est fait à la main ?
Oui, absolument. Alors j'essaye d'en fabriquer 3000, mais à la main ça représente un beau chiffre. Mm-hmm. Disons que c'est un peu la singularité de la tamiserie qui a su conserver toutes ces années son savoir-faire de fabrication artisanale et manuelle. Il n'y a pas de machine électrique à la tamiserie. Tout est en effet réalisé à la main.
Et la toile du tamis est en inox, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est aussi un point important parce qu'on trouve aujourd'hui beaucoup de tamis qui sont fabriqués avec des toiles en acier. Lorsqu'elles sont neuves en rayon, on a l'impression qu'elles sont durables, sauf qu'elles vont vite s'oxyder. Et du coup, l'intérêt des tamis de la tamiserie, c'est qu'ils sont tous montés avec des toiles inox, et ce qui fait que la durabilité est beaucoup plus longue.
Alors, à quoi servent vos tamis ? Je parlais de l'archéologie tout à l'heure. Vous nous donnez quelques exemples de la vie de vos objets, s'il vous plaît ?
Oui, alors oui, il y a plein d'usages possibles. L'usage principal étant quand même dans l'agriculture, pour les producteurs qui vont faire de la graine, c'est les semenciers, et puis également les producteurs de plantes aromatiques et médicinales, parfois les jardiniers pour faire un beau compost, ou avoir un terreau de semis particulièrement fin. Mais ça n'est pas tout, hein. Il y a aussi le secteur du bâtiment qui utilise beaucoup les tamis, notamment dans l'aérogommage et le sablage, pour nettoyer, on va dire, les matériaux et les recycler, les réutiliser. Les archéologues, vous en avez parlé en introduction, mais aussi les métiers de bouche, hein, comme les pâtissiers, les chocolatiers, les boulangers.
C'est beau, non, de faire un objet qui sert à autant de métiers différents ?
Ah oui, c'est vraiment moi ce qui m'a séduit dans cette entreprise, c'est que l'objet est vraiment sympathique et il y a un volet patrimonial qui rentre en jeu du fait que c'est la dernière tamiserie de France. Moi, à la base, j'ai une formation d'ébéniste, mais je n'ai jamais pratiqué l'ébénisterie en tant que professionnel. J'ai travaillé longtemps dans un bureau où je travaillais dans la communication visuelle et dans l'infographie. Et donc, arrivé à un moment, j'ai eu l'envie de revenir à un métier manuel, de retravailler de mes mains et d'arriver à faire des objets comme un tamis, c'est un plaisir au quotidien.
Oui, c'est un parcours étonnant que le vôtre. Hein. Vous avez travaillé comme infographiste pendant plusieurs années, et puis soudain, l'artisanat. Peut-être une envie de lâcher les écrans pour manipuler du bois ?
Exactement. Bon, j'aimais beaucoup mon métier aussi auparavant, mais il y avait cette envie, ce manque depuis mes études où j'ai appris l'ébénisterie, de revenir à l'atelier, retravailler debout et me servir de mes mains pour fabriquer quelque chose à la base de bois, puisque j'ai quand même été formé sur le bois au départ.
Une envie de vous lever, donc.
oui, c'est ça, au sens propre et figuré. C'était aussi une façon de tenter l'aventure de l'entrepreneuriat.
Vous sentez-vous aussi investi d'une mission patrimoniale, Florian ? C'est la sauvegarde d'un geste, hein, la sauvegarde d'un savoir-faire qui est en jeu.
Oui, absolument. Hein, c'est la transmission qui est en jeu. Lorsque j'ai repris cette entreprise, j'avais tout à fait conscience de cet enjeu. On vit aussi dans une époque où l'entreprise, la création d'entreprise est souvent synonyme d'innovation, de compétition, faut se démarquer de sa concurrence, ce qui est bien normal. Hein. Je n'ai rien contre l'innovation, mais la tamiserie, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une recette qui fonctionne depuis des dizaines, des centaines d'années, et il faut la conserver.
C'est une anti-start-up, donc.
Oui, si on veut. J'aime bien ce terme, c'est un peu provocant, mais je n'ai vraiment rien contre les start-up et l'innovation, bien au contraire. Mais pour bien comprendre, ouais, la tamiserie, elle doit avant tout préserver son savoir-faire en répétant ces gestes ancestraux qui font des tamis ce qu'ils sont aujourd'hui.
La tamiserie, c'est à Châtellerault dans la Vienne. Merci beaucoup Florian Houdemont.
Merci à vous.
Et bonne journée.
Bonne journée, au revoir.